BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Et un grand bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, merci d'être là, de nous écouter, de nous regarder chaque week-end. Bienvenue dans De quoi je me mêle. Vous le savez, tous les week-ends, on plonge dans l'actutech, on remonte le temps de la semaine et on se pose tranquillement avec nos spécialistes pour vous raconter tout ça. Cette semaine, dans De quoi je me mêle, en deuxième partie, petite larme de nostalgie puisque nous allons remonter le temps avec Christophe Joly et notre rendez-vous nostalgique pour s'intéresser au Game Boy. À votre avis, c'était en quelle année le Game Boy? C'est fin des années 80, voilà, petit indice. Christophe Joly nous racontera tout ça. Je vous rappelle le hashtag DQJMM, bien sûr, si vous voulez réagir sur les réseaux. Encore une fois, un grand merci d'être fidèle à De quoi je me mêle et bienvenue. Alors, pour débuter, c'est le club de la presse IT avec cette semaine Mélinda d'Avansoula. Salut Mélinda.
Salut François, salut Anthony.
Voilà, journaliste maison à la rédaction de BFM Business et de Tech & Co. Et à tes côtés, cette semaine, c'est Anthony Morel. Salut Anthony.
Salut les amis, ça va?
C'est le comeback.
Yes.
Tout va bien, Anthony?
Ça va pas mal. Je me posais la question éternelle en t'écoutant. Est-ce que c'est le ou la Game Boy?
Grand débat à venir, grand débat. Alors,
franchement, j'allais vous poser la question. J'avais deux questions. Le ou la, quelle année, Game Boy?
Je dirais 89.
Ouais. Moi, j'aurais dit 88, 89. Je l'avais eu, donc c'est pour ça.
Moi, j'avais la Game Gear, moi.
J'ai eu les deux.
T'as eu les deux? Oh la chance, mais c'est pas vrai.
J'ai commencé tôt. J'avais mis mes économies.
Est-ce que t'avais la Lynx?
Alors, j'avais joué avec, mais je ne l'avais pas.
Ça, non, c'était bien avant. C'était milieu des années 90.
La Lynx, c'était à peu près en même temps, non?
Fin 80, début 90.
Ah oui, non, mais c'était
le concurrent raté, en fait.
Game Gear, c'était un petit peu plus tard.
C'était la première. Je crois que c'était l'une des premières consoles avec un écran couleur, la Lynx. C'est ça qui était.
La Lynx, la Game Gear aussi.
C'est un peu plus tard, Game Gear 92.
Moi, j'étais Team Sega, donc j'avais toutes les consoles Sega.
Bon, enfin, bref. Attendez, on va pas parler de jeux vidéo.
Oui, pardon, on déflore un peu le sujet. Ouais.
Mais c'est bien, mais en tout cas, ça vous donne peut-être envie de nous retrouver tout à l'heure avec Christophe Joly.
Et oui, j'arrête.
Alors, on dit le Game Boy ou pas?
Je crois que Nintendo avait clarifié le truc à un moment, ils avaient dit le, non, c'est ça?
Je crois que c'était le, mais en fait, alors, je vais, petit tips, en général, on voit générationnellement qui dit le, qui dit la. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, donc quand elle est sortie, j'étais pas très grande.
Toujours beaucoup.
Merci François. On disait le. Parce que je pense qu'il y avait le boy derrière.
C'était le boy.
Le Game Boy.
Et ceux qui disent là, c'est parce que c'est la console Game Boy.
Et oui.
Donc voilà. Donc moi, je suis des vieux qui disent le qui sont passés au là parce que tout le monde dit là et qu'à un moment, on est tout seul dans son délire. Ouais. Mais moi, je reste le Game Boy.
Moi, j'ai des souvenirs de Tetris sur Game Boy.
Oh là là. Avec la musique. Arrête, on va tous avoir la musique dans la tête.
Mon Dieu.
Les piles, par contre, quel enfer.
Waouh.
Ouais. Ah, les piles, c'était.
Une pile de la Game Gear, on jouait 30 minutes, on était hyper contents.
Moi, je jouais que sur secteur. Hein,
j'avais un sac avec des piles, moi. Je partais en vacances avec un sac.
C'est dingue comme ces jeux-là, on pourrait en parler pendant des heures.
Mais bien sûr.
C'est dingue. Enfin, bref, on referme la parenthèse tout à l'heure avec Christophe. Dans l'actu, les amis, on va commencer par, eh bien, justement, une innovation technologique qui date et qui a tiré sa révérence cette semaine. Vous en avez sans doute entendu parler. Si vous êtes utilisateur, vous avez sans doute aussi remarqué que ça ne marchait plus. C'est Skype qui a décidé de couper le fil. Enfin, c'est pas Skype, c'est Microsoft. Mais bon, Microsoft était évidemment le principal actionnaire de Skype. Ouais. C'est une page de notre culture high-tech qui se tourne.
Ah oui,
Anthony.
Complètement. Bah, tu vois, nostalgique pourrait aussi se pencher sur
c'est
Skype,
vrai.
Genre, parce qu'il y a vraiment une histoire à raconter. D'autant que vraiment, Skype, pour moi, ça a été vraiment un marqueur technologique du début des années 2000. Tu vois, enfin, c'est quand même un mot qui est presque entré dans le langage courant. Comme on dit googliser quelqu'un, on dit skyper, ou faire un Skype avec. C'est quand même pas rien, quoi. Pour un logiciel, pour moi, c'est quand même une consécration.
Skype le kangourou aussi, en fait, si vous vous en souvenez. C'était quand même assez.
Ah oui, ils sont de la même famille, peut-être. mais en fait, enfin, faut se replonger, je pense, dans cette époque pour se rendre compte, parce qu'on a oublié maintenant à quel point c'était une révolution. Évidemment. Maintenant, ça paraît tellement banal d'être en visio avec quelqu'un, de discuter comme ça. Mais on est en 2003. On est dans un monde où il n'y a pas de smartphone, où si tu veux appeler quelqu'un à l'étranger, c'est juste, ça coûte une blinde et puis tu n'as pas trop d'autres solutions, quoi. Et là, il y a une petite boîte estonienne qui arrive et dit j'ai un logiciel, vous allez voir avec la webcam de votre ordinateur, vous allez pouvoir discuter avec n'importe qui dans le monde et ça va vous coûter rien ou quasiment rien. Alors, il y a un système de crédit, mais enfin, globalement, c'est quasiment gratuit. Et voilà, la révolution, elle est là. C'est-à-dire qu'on va réussir à abolir les distances, tout à coup, grâce à ce logiciel. On va avoir des gens... Moi, j'étais étudiant à l'époque. Alors, c'était après... J'étais parti à l'étranger, mais ça devait être l'année d'avant. J'étais une année trop tôt, peut-être. Mais tu vas pouvoir quand même discuter à distance avec tes parents, avec les grands-parents, avec leurs petits-enfants, même quand ils sont à l'autre bout du monde, ce qui était vraiment un truc complètement nouveau, quoi.
Mais c'était le début du haut débit, hein, rappelons-le, parce que évidemment tout ça est corrélé avec la technologie réseau de l'époque.
Mais bien sûr.
C'était le début de la DSL.
C'est ça.
Voilà, la DSL commençait à se propager et on commençait à pouvoir avoir des vidéos correctes.
C'est ça.
On va dire.
Et donc tu vas pouvoir, continuer à discuter. Alors c'est, moi je pense aussi aux histoires d'amour, tu sais, à distance, qu'on peut continuer grâce à Skype, qui aurait probablement périclité autrement. Et puis il y a eu plein d'histoires, tu as eu des mariages par Skype, tu as eu des accouchements où le père a pu assister à l'accouchement grâce à Skype. J'ai cherché un petit peu les anecdotes sur Skype parce que j'aime bien en général.
Accouchement par Skype.
Bah ouais, bien sûr. Parce que
à distance.
Tu assistes à distance, ouais, exactement. Donc c'était vraiment un truc révolutionnaire. Alors après, il y a eu évidemment une énorme concurrence. Maintenant, plus personne, mais notamment les jeunes générations, elles ne vont pas utiliser Skype parce que quand tu achètes un iPhone, tu as FaceTime qui est embarqué.
Est intégré, et puis WhatsApp est arrivé.
WhatsApp, tu as Messenger, tu as absolument tout. Et puis dans le professionnel, maintenant, tu as Zoom, tu as Teams. Alors c'est marrant d'ailleurs parce que Microsoft qui a racheté Skype, ça leur a quand même coûté 8,5 milliards hein, à l'époque de dollars. Ils ont lancé Teams qui vampirise plus ou moins le service qu'ils ont acheté 8,5 milliards de dollars. Bon, je ne sais pas si c'était une bonne idée, si c'était un point de vue stratégique, ils ont gagné de l'argent avec ce truc-là. Mais pour moi, il y a quand même, voilà, tu parlais de petites larmes de nostalgie. Je tirerais une petite larme sur Skype qui rejoint dignement le cimetière de la tech.
Et avant de te donner la parole, juste une chose, ça a été aussi le début des sueurs froides pour les opérateurs télécoms. Ouais. Parce que les opérateurs télécom régnait en maître sur tout ce qui était roaming, c'est ce que tu disais, gagner énormément d'argent parce que je vous rappelle qu'à l'époque il n'y avait pas l'Europe ne s'était pas mis d'accord sur les frais de roaming qui avaient disparu et ça coûtait une fortune en fait et Skype est arrivé à casser un peu ces frontières là et moi je me souviens que les opérateurs télécoms avaient très très peur de Skype et puis après évidemment ils se sont pliés à tout ça.
Je rigolais parce que l'autre jour il y a quelques jours là, je lisais un article sur en gros c'était l'outil des boomers. On rappellera que je passe sur le fait qu'aujourd'hui, boomers, j'ai l'impression que c'est dès que tu as plus de 30 ans, il faudrait refaire un brin d'histoire à beaucoup de gens. Mais mine de rien, aujourd'hui, comme l'a dit Anthony, les appels vidéo, pourquoi WhatsApp a fini par se mettre à la vidéo? Pourquoi Messenger s'est mis à la vidéo? C'est parce qu'un jour, il y a eu Skype. Parce qu'avant eux, il y a eu MSN Messenger, AIM. Et en fait, aujourd'hui, les technologies, elles n'ont rien inventé. Elles modernise quelque chose qui existait. Donc, sans Skype, sans cette idée qui paraissait à l'époque, parce que si on regardait nos premiers Skype, on aurait peur, parce que la résolution d'image était quand même catastrophique. Mais il n'y aurait pas aujourd'hui, il n'y aurait pas de Zoom. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait pendant le confinement sans Skype? Alors, on peut rigoler, beaucoup rigolent de Skype, oh, c'est rétro, c'était un truc pour les vieux. Oui, enfin, vous n'auriez pas aujourd'hui vos super outils, en effet, pour toutes les relations à distance, pour faire du télétravail, jeunes gens aussi, quand il y a des visios à faire et qu'on est chez soi.
Tu as raison.
C'est une pierre angulaire de la tech.
Skype a commencé à creuser sa tombe avec le Covid, parce qu'à l'époque, on parlait de tous les logiciels de visio, mais pas beaucoup de Skype.
Zoom
a explosé, Teams explosé, et Skype, finalement...
Ça leur a donné un faux second souffle, en fait. Parce qu'ils ont quand même profité un peu du Covid, mais beaucoup moins.
Pas autant que ce qu'ils auraient pu imaginer.
Se moderniser. Je pense qu'il y a un moment où Skype, voilà, quand on commence à mettre des filtres un peu bébêtes dans tous les outils de chat comme ça, même sur FaceTime, Skype était resté très sérieux quelque part. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait que ils ont été dépassés. Et là, pour le coup, oui, c'est un logiciel de grand-père, on pourra le dire, mais ils ont été dépassés par le reste. Mais sans Skype, aujourd'hui, il y a beaucoup de nos automatismes mobile et PC que nous n'aurions pas. Ouais. Mais c'est vrai que moi je me souviens qu'à l'époque, c'était la révolution, il y avait déjà eu tous les services de messagerie, voilà, donc AIM, Messenger, qui avaient mis les opérateurs pas bien. Skype est arrivé par-dessus, ça a été la cata. Oui, mais ça a permis de baisser des prix, de faire d'autres choses. Skype,
ça a été le début d'une nouvelle ère, en fait.
Voilà,
dans
on réalisera...
Et c'était l'explosion de la voie sur IP pour le grand public.
Exactement.
Aussi.
Et moi, j'avais mis, en effet, mon grand-père, qui habitait en province, sur Skype pour qu'il puisse discuter avec nous tout le temps. Ça. Donc, c'était très drôle parce qu'il appelait à n'importe quelle heure. Parce que le souci de savoir si on était en train de travailler ou pas, c'était pas grave, ça lui faisait plaisir. Mais voilà, donc Skype, je pense qu'on a tous des souvenirs, drôles ou pas, sur Skype. Mais c'est quand même un truc qui aura marqué ce qu'aura marqué l'histoire de la tech.
Je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est, comme dit, je ne sais plus quel auteur, mais en littérature, on se tient sur les épaules de géants. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu dois toujours quelque chose à tes prédécesseurs et à ceux qui ont été pionniers dans ce domaine. Et c'est vrai qu'il est de bon ton maintenant de se moquer de Skype. Moi, quand je disais qu'ils rejoignent dignement le cimetière de la tech, c'est parce qu'ils ont fait leur boulot.
Oui, voilà,
ils ont été pionniers.
Ils ont apporté la pierre à l'édifice de la communication.
Voilà. Et on n'aurait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Skype à l'origine, très clairement. Après, c'est vrai que ce qui leur a manqué, c'était un petit peu d'innovation, peut-être, t'as raison,
de vista,
peut-être effectivement d'originalité, et quand je parle d'innovation, c'est qu'on voit bien, bah, notamment, tous les concurrents, hein, que ce soit Zoom, même Teams d'ailleurs, étonnamment, mais a intégré par exemple tout ce qui est intelligence artificielle, tu vas avoir, tu sais, les résumés automatiques de réunion, par exemple,
Teams
après une visio.
Teams fait 10 fois plus de choses que
Skype, c'est normal. La traduction en temps réel, etc.
La traduction en temps réel, les filtres beauté, non mais tu vois, le truc tout bête, mais le truc qui va donner l'impression à la personne en face de toi que t'es maquillé super
de
tout alors que tu viens juste de te lever avant la visio, le suivi des regards. Mais non, mais c'est vrai, c'est plein de petits trucs en fait, plein de petites fonctionnalités
qui n'ont pas été implémentées.
Un truc tout bête, n'oublions pas qu'au mois d'octobre, le suivi Windows 10, c'est fini pour Microsoft. Je pense qu'ils n'avaient pas aussi envie de s'embêter à faire du support pour Skype alors qu'ils ont Teams.
Eh bien voilà, merci Skype et adios.
Adios.
Et bon vent.
Et hasta la vista.
Ah, puis il y a la petite musique aussi, on n'a pas parlé.
Oui.
Ça rejoint le cimetière des petites jingles.
Les signatures sonores, c'est important aussi. C'est comme Netflix, comme le Todoom de Netflix. Ça fait partie des petits trucs qui te restent dans la tête.
Regardez les iPhones, il n'y a plus que dans les séries télé qui sonnent. Je dis ça comme ça.
Oui, c'est vrai.
Dans les séries télé, les films.
Les séries Apple TV.
Mais un peu partout. Il n'y a plus que là qu'on entend la petite musique de l'iPhone.
Ouais, c'est vrai.
La dernière fois, je rigolais, mais alors doucement, parce que je regardais une série Apple TV, je ne sais plus laquelle, mais qui était très bien d'ailleurs, comme beaucoup de séries Apple qui sont très bonnes. Les gentils avaient un iPhone, le méchant avait un Android. Et je trouvais ça, mais à mourir de rire, quoi, tu vois. Gros cliché, quoi.
C'est clair.
C'est horrible parce qu'une fois que tu sais.
Tu sauves le monde, t'as un iPhone.
T'es
tu veux
méchant,
le détruire, t'as un Android.
Mais tu vois, tu crois qu'il est gentil. Et tu t'aperçois qu'il n'a pas d'iPhone et ça t'a cramé la fin de la série.
Ben voilà.
Je suis désolée de le dire aussi.
C'est ça.
Ah, c'est un très bon truc. Ça, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai.
Pas dans toutes les séries, mais moi, celle que j'ai vue, c'était vraiment quoi.
Tu sauras que ça fait des années et des années, pas loin d'une décennie, que Apple a instauré ça en fait.
Ouais.
Quand on leur demande un partenariat, ils disent OK.
Mais en fait,
ils ne se cachent pas.
Sérieux ?
Mais en revanche, la personne qui a un iPhone et que ça se voit de manière ostensible, ça ne doit pas être un méchant dans le scénario.
Ah, c'est génial.
Et une fois que tu sais ça, ça te crame tous les films.
Ah ben c'est ça, le spoiler alert, il avait un iPhone.
Ouais. Dès le début, je l'ai su, il avait pas d'iPhone.
Allez, on revient en 2025 avec toi, Anthony, puisque tu as chaussé sur ton nez une paire de lunettes. Alors, habituellement, tu en portes des lunettes, hein, bien évidemment, mais celles que tu chausses sont particulières.
Ouais.
Ce sont de toutes nouvelles lunettes qui mettent en avant l'audio.
C'est ça, c'est des lunettes qui permettent de mieux entendre, ce qui n'est pas forcément très intuitif.
Dit comme ça,
c'est un peu bizarre. Elles permettent de mieux voir
Sauf
aussi.
Si tu as les oreilles à la place des yeux.
Voilà, oui, ce qui est assez rare comme condition.
Ce qui est assez rare quand même.
Mais c'est vrai que ce n'est pas très pratique.
Ouais, ce n'est pas pratique.
Non, alors c'est étonnant, mais c'est vrai que ce sont des lunettes, on pourrait appeler ça des lunettes auditives, c'est-à-dire qui vont non seulement permettre de mieux voir, parce que c'est quand même des lunettes, mais qui intègrent dans les montures des micros et des haut-parleurs qui vont en fait amplifier le son de la personne qui se trouve pile en face de moi. Alors je sais qu'on les a tous testés au CES, mais Linda, tu les avais testés, hein, c'était Essilor Luxottica qui proposait ça. En plus, au CES, c'était impressionnant parce qu'on était dans une ambiance de salon où il y avait beaucoup, beaucoup de bruit d'ambiance et donc tu avais quand même un effet waouh assez saisissant. Mais là, elles viennent juste de sortir, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc c'est Essilor Luxottica avec Nuance, qui est une start-up qu'ils ont rachetée. Hein, donc voilà, ils ont sorti cette paire de lunettes avec elle.
Nuance est un spécialiste de la reconnaissance vocale depuis très longtemps.
Hein. Oui, absolument. Alors là, je vais vous faire tester. Le plus simple, c'est que tu les testes, François, et que tu me dises ce que tu en penses. Parce que je vous entends beaucoup mieux depuis tout à l'heure.
C'est vrai ?
Ouais, bien sûr.
Ils nous écoutaient pas du tout depuis le début de l'émission.
C'est clair.
Alors, je viens des chaussées, j'entends comme une espèce d'écho.
Exactement,
déjà.
C'est ça.
Un léger écho.
Et là, si je te parle, est-ce que tu m'entends mieux ? Essaye de tourner la tête et voir si tu m'entends mieux quand je suis face à toi ou pas. Là, je te parle, je continue de te parler, je te raconte, je vais te raconter un petit peu ce que c'est que ces lunettes. Donc, je te disais, t'as des haut-parleurs à l'intérieur et des micros. Et en fait, elles vont focaliser le son de la personne qui se trouve pile en face de toi. Et le reste, tu vas moins l'entendre. De telle manière que si tu es dans un environnement bruyant, typiquement un restaurant, une soirée, un salon, eh bien, tu vas bien entendre la personne avec qui tu es en train de parler. Et le reste, tu vas être moins embêté par les sons d'ambiance. C'est vrai que là, tu sens l'amplification, je pense.
Pardon ?
Le gars qui me foire ma démo. J'entends beaucoup moins bien.
Je suis un peu blagueur. Mais c'est vrai que je t'entends mieux quand vraiment je suis dans ton axe. Ouais. Le son de ta voix est amplifié.
C'est ça. Ouais. C'est exactement.
Même
ça.
Ma voix d'ailleurs.
Même ta voix. D'ailleurs, si tu respires par le nez, tu vas avoir l'impression d'être Darth Vader.
Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir pris un bonbon Ricola.
Est-ce qu'il y a comme dans le modèle qu'on avait vu, je récupère les lunettes. Oh là. Rien que dans les prenants, j'entends déjà beaucoup mieux ma voix. Donc c'est pas inquiétant. Ah oui, en effet.
Ah, ils font super bien.
Ah, c'est gentil.
Bien François aussi. Hein,
c'est vrai.
Waouh, regarde-toi comme t'es belle. Ouais.
Magnifique.
Magnifique.
Enfin, moi, je me vois pas.
mais ça te va bien.
Pour ceux qui écoutent, je fais des
coups. Franchement,
ça te va super bien.
Elles te vont super bien.
Ah, c'est gentil. Je vais les garder, comme ça, je vous entends très très bien aussi. Je m'entends encore mieux, c'est horrible. Non, il y avait eu, je me souviens, c'était.
Ça a été présenté au CES, hein, ça.
CES. Ouais. Moi, je les avais testés au CES. Alors, pour donner une idée à ceux qui nous entendent et qui ne testent pas, ça fait un peu comme le beamforming. Vous savez, cette technologie des écouteurs, notamment dans les AirPods, où ça, vous pouvez focaliser sur la voix de quelqu'un. Je me souviens que au CES, il y avait une application pour régler.
Oui.
Et on pouvait notamment choisir l'axe de direction de la captation, c'est-à-dire que c'est même des gens qui passaient derrière vous, par exemple pour les gens qui ont, alors il faut quand même rappeler que c'est pour des gens qui ont une perte auditive légère à modérée.
Ça ne se substitue pas aux aides auditives.
Exactement.
Qui rentrent dans l'oreille, etc.
Ouais, c'est très important de le préciser.
C'est intéressant quand même, parce qu'il y a plein de gens qui sont entre deux, hein, parce qu'évidemment quand on commence à moins bien entendre, on n'est pas forcément tout de suite sourd, et donc ça peut être à ce moment-là quelque chose de cool. Là, t'as modifié
le mode. En fait, t'as une application qui va avec, et donc tu peux choisir. Alors, j'ai pas testé tous les modes, puis je les ai pas. Faut les calibrer aussi pour la personne.
Exactement.
Mais tu vas pouvoir choisir le mode audio unidirectionnel où t'es en train de discuter avec une personne.
Là, j'entends que par exemple, j'entends très très bien Anthony. Ça vraiment, ça me fait comme un couloir entre lui et moi sur la voix.
D'accord. Et ou alors t'as un mode à 360 degrés où là, tu vas plutôt entendre ce qui se passe autour de toi. Donc, tu peux régler plein de choses en fait. Hein, évidemment, l'idée c'est que chacun puisse finalement optimiser son audition et son acoustique. Vous avez tout à fait raison, j'allais vraiment insister sur ce point, sur le fait que ça ne remplace pas, et on ne peut pas appeler ça une aide auditive, c'est un assistant auditif, mais là où c'est très intéressant, c'est pour les gens, alors on appelle ça qui souffrent de presbyacousie, c'est-à-dire des gens qui ont 45-50 ans, qui commencent à perdre un peu de leur audition à cause de l'âge, ils n'ont pas forcément envie d'être appareillés, parce que voilà, même si ça s'est miniaturisé, on n'a pas forcément envie d'avoir la prothèse auditive, et donc ça peut être une première aide, une première prise en charge pour les pertes d'audition. Et c'est vrai que en les testant un peu, tu demandes beaucoup moins tu peux répéter même dans des environnements bruyants, et c'est vrai que tu te fatigues moins aussi, tu vois, dans un environnement, même dans un open space et tout, là tu vas quand même avoir ce petit confort supplémentaire qui est quand même vraiment pas mal.
Alors ça dit quelque chose, je les retire parce que c'est perturbant quand même, de rien quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Ça dit quelque chose aussi, ces lunettes, c'est que pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble vraiment à une paire de lunettes classique, monture un peu plus épaisse, c'est un peu comme les Ray-Ban Meta,
un petit peu plus lourde peut-être, pas énormément,
parce que la techno Ray-Ban Meta, qui sont aussi faites par Essilor Luxottica, la monture, forcément il y a un peu tout le système électronique dedans. Il y a aujourd'hui cette recherche d'aide, d'assistance auditive ou visuelle discrète. C'est le succès de la mise à jour des AirPods Pro que nous on va avoir là, pour justement dans le même système, la même idée, améliorer l'écoute et que ce soit discret. C'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin d'un appareil. Sennheiser a été racheté par Sonova, je ne sais plus le nom, je ne veux pas écorcher, qui pareil fait des dispositifs d'aide. Alors pour le coup, on est beaucoup plus près même de l'aide auditive, mais ils ont essayé de mettre ça dans des écouteurs discrets. Mm-hmm. Donc on n'a pas envie, je pense, moi je ne suis pas concernée, mais les gens qui sont concernés, que ça se voit et que tout de suite, vous soyez pointé du doigt. Et je trouve que là, on a des super alternatives. Je pense qu'elles sont sur ordonnance aussi s'il y a besoin d'une correction.
Ouais, alors c'est pas remboursé encore. Alors ça peut être en partie par les mutuelles, mais ça coûte. Pour la vue. Alors c'est d'ailleurs un dispositif médical parce que c'est des lunettes, donc effectivement ouais. tu peux avoir une ordonnance et mettre des verres à ta correction. En revanche, alors ça coûte 1 100 €. Et c'est pas considéré. Après la partie, c'est encore une fois, c'est pas une prothèse auditive ni une aide
médicale.
C'est pas
considéré comme une aide auditive. Donc
en termes de remboursement, ça va être.
On te rembourse la monture. Finalement, voilà, comme si c'était une monture normale.
Ouais, c'est exactement ça. Mais c'est intéressant de voir que, encore une fois, les lunettes, c'est vraiment le nouvel accessoire dans lequel on est en train d'intégrer plein de technologies. C'est quand même génial, quoi. L'IA embarquée avec les Meta Ray-Ban, on parle même pas de la réalité augmentée, parce que voilà, ça va arriver après. Là, les technologies d'audition. Moi, j'ai reçu une start-up il n'y a pas longtemps sur BFM Business qui faisait un truc génial aussi. C'est des lunettes autofocus. C'est-à-dire que là aussi, tu as de l'électronique. Et en fait, ça permettait au verre des lunettes de faire le point comme un appareil photo. En fait, en fonction de ce que tu regardes, de près ou de loin, et ça te corrige automatiquement comme ça. C'est incroyable. Enfin, vraiment, l'effet est dingue. C'est pareil, je les avais rencontrés au CES, c'est une boîte française qui fait ça. Donc, il y a vraiment des trucs géniaux, tu vois, un objet qui est relativement banal, les lunettes qui existent depuis des siècles et qui est en train de se réinventer grâce à la technologie.
Parce que tu le portes. En fait, tu l'as sur toi. C'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus élégant. Oui. Et c'est vrai qu'on sait que c'est le principe des montres aussi. Pourquoi est-ce qu'on met un max de capteurs dedans et de choses de santé pour éviter d'avoir du dispositif encombrant, pas pratique. Là, tu vas les oublier, en fait. Les lunettes, au bout d'un moment, si ton vrai problème, c'est l'audition, tu as des lunettes. Si elles corrigent ta vue, tant mieux. Mais au moins, le bonus, c'est vraiment, personne ne le sait. Et en plus, toi, tu l'oublies. Et je pense que là, on sera amené à en parler dans les mois prochains, mais tout ce qu'on parle de lunettes en réalité augmentée, avec toutes les informations qui arrivent, il y a aussi ce côté, on l'a toujours sous les yeux de fait,
c'est ça.
Sans avoir à sortir un appareil supplémentaire.
Et on peut imaginer que demain, on aura une paire de lunettes qui fera tout, en fait, hein, qui nous apportera de la réalité augmentée, du son, etc. Appareil photo.
L'IA embarqué.
Ouais, c'est ça. Très intéressant.
La question, c'est pour ceux, toujours pareil, pour ceux qui ne portent pas de lunettes, est-ce que ça va devenir l'accessoire de mode, même pour ceux qui n'en portent pas et qui vont mettre des verres neutres, tu vois, on peut imaginer plein de choses après.
Mais je pense que là, c'est vraiment l'usage qui fera la différence. Ouais. Si quelqu'un se rend compte qu'avec une paire de lunettes, même s'il n'a pas besoin de correction, il se retrouve avec quelque chose qui va vraiment lui apporter au quotidien plein de services, peut-être qu'il y passera finalement. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une nouvelle mode en ce moment. Il y a plein de gens qui portent des lunettes simplement comme accessoire de mode alors qu'ils n'en ont pas besoin.
Ça fait longtemps que ça existe et je pense que là, on a quelque chose qui en plus va remettre les gens dans le bain social. C'est-à-dire que quand on commence, moi j'ai entendu des gens qui commencent à moins entendre, pour pas que ça se, pour pas qu'on soit toujours en train de dire « excuse-moi, tu peux répéter ?» Ben voilà. Mmh. Ah, t'as de nouvelles lunettes. Ouais, j'ai de nouvelles lunettes.
Après,
et on se remet dans le bain social et il y a ce stress.
Ça ne se substitue pas.
Non, c'est pour des pertes auditives légères à modérées. Hein,
donc, c'est pour un début.
Et c'est pour ça que j'aimerais bien que quelqu'un qui est justement, qui est justement dans cette configuration de perte légère d'audition nous dise ce qu'il en pense.
Ouais,
parce que nous, on ne se rend pas compte finalement. On a la chance de bien entendre encore. Ouais.
Il faudrait faire tester. Une ORL disait qu'effectivement, il faut vraiment insister sur le fait que ça ne remplace pas une consultation. Il ne faut pas que ça empêche les gens d'aller consulter, évidemment. On ne dit pas ça. Mais le point est très intéressant de dire que finalement, le schéma, finalement, c'est le même que pour les smartphones. Un smartphone, c'est un téléphone, mais accessoirement un téléphone qui fait plein d'autres choses. Les lunettes, ça sert à voir, mais ça ne sert pas que à voir.
Non, ça sert
à voir. C'est ça, en fait. Le futur de la lunette, c'est ça sert à voir, mais ça sert à plein d'autres choses.
C'est-à-dire que c'est on va dire, au carrefour de nos sens, finalement. Les oreilles, etc. Donc. Intéressant. Dans l'actu aussi, il y a Meta qui vient de sortir une application qui s'appelle Meta AI et qui est assez intéressante parce que, en fait, c'est la vitrine de ce que fait Meta en termes d'intelligence artificielle. On voit que Meta veut marcher sur les plateformes de ChatGPT.
Ils veulent vraiment monter en puissance. Ils veulent devenir les numéros 1 dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce qui n'est pas forcément gagné parce que dans le grand public aujourd'hui, c'est quasiment. On parlait de Skype qui est devenu un nom commun quasiment, ChatGPT aussi, dans le grand public, hors des sphères technophiles ou autres, si tu parles de Meta AI, tu vois, même de Gemini, déjà, c'est même pas sûr. Donc vraiment, il y a un très 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 gros boulot à faire. Et donc ils ont lancé, alors c'était leur première d'ailleurs grande conférence dédiée à l'IA, IA qui s'appelle la LlamaCon. Donc Llama, c'est le nom de leur modèle de langage. Et c'est lors de cette grande conférence que Mark Zuckerberg a annoncé ses ambitions et donc le lancement d'une application en propre. C'est-à-dire que jusqu'ici, Meta AI, ça existait déjà, mais c'était saupoudré dans tout l'écosystème Meta. Donc vous saviez le petit rond bleu, là, le petit cercle bleu
WhatsApp,
sur Insta,
Messenger, Facebook,
voilà.
Instagram.
Qui est pas mal, hein, d'ailleurs. Moi, je m'en sers assez régulièrement.
Ouais. Alors moi, je m'en sers pas.
C'est bien, pareil.
Moi, je trouve ça très cool. Moi, par exemple, dans WhatsApp, je m'en sers pour générer, plutôt que d'utiliser des GIFs, tu sais, je génère des images rigolotes que j'envoie à mes amis. Enfin, voilà, je raconte ma vie, hein, mais tu vois, je trouve ça marrant, tu vois.
Je
vous enverrai des petits GIFs et des petites...
Il m'envoie jamais de messages.
C'est vrai que je t'envoie.
Mais parce qu'on se voit toutes les semaines.
Bah, on se voit trop.
Non, c'est parce qu'avec nous, il est très, très sérieux. Imagine le niveau des conversations avec Meta AI.
Non, mais c'est pas mal. Franchement, moi, je trouve ça sympa. Mais là, du coup, ils ont dit, voilà, on va lancer notre propre application qui sera un concurrent de l'appli ChatGPT, de l'appli Gemini ou de Mistral AI. On va citer quand même les Français parce qu'ils ne sont pas mauvais non plus. Et donc, l'avantage, alors la carte qu'ils essayent de jouer, et c'est ce qui est intéressant, je trouve, parce que en termes de modèle de langage, bon, ils se tirent tous un peu la bourre. Il y a des tests, des benchmarks. Une semaine, le meilleur c'est ChatGPT, l'autre c'est Gemini, après ça va être Llama. Bon, on va pas entrer dans ce débat-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils jouent sur le côté social, ce qui est évidemment la force de Meta, hein, avec leur écosystème, c'est branché.
Et leurs milliards d'utilisateurs.
Ah, bien sûr, c'est ça. Donc en fait, cette appli, elle va être connectée à ton compte Facebook ou Instagram, ou les deux. Et donc, elle va à la fois avoir plein d'informations sur toi. Donc du coup, les réponses de l'IA vont être vachement personnalisées. Et en plus de ça, tu vas avoir un côté social dans le sens où tu vas pouvoir partager tes prompts, tu auras un feed, un fil discover comme sur Instagram pour voir les prompts et les images qui ont été générées par tes amis ou par des créateurs de contenu. Je trouve que ça, c'est une approche qui est intéressante, qu'on n'a pas forcément vue chez les concurrents pour l'instant. J'attends de voir ce que ça donne parce qu'en France, pour l'instant, c'est très limité. On n'a pas parce qu'il y a une fonction, j'ai pas dit, vocale, comme sur ChatGPT, tu peux aussi discuter avec l'IA, mais ça, on n'y a pas accès en France. Donc voilà, on va attendre un petit peu. On a comme à chaque fois avec l'Europe, un petit décalage. Mais je trouve le concept assez séduisant.
Moi, j'ai Meta AI avec les Ray-Ban Meta. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont transformé l'appli Meta View, qui permettait de connecter les lunettes, en Meta AI pour justement récupérer et centraliser tout. Mais c'est vrai que c'est encore un peu frustrant parce qu'on nous parle de traduction en direct, de choses qui sont censées arriver là, qui se déploient lentement.
Qui ne sont pas encore véritablement effectives.
Petit message de rappel à tout le monde, parce que Meta AI, il faut quand même le nourrir, que Meta AI se nourrit en effet de nos données, de nos images.
Bien sûr, mais ils le disent ouvertement d'ailleurs.
Et qu'il n'y a que jusqu'à la fin mai, je crois, pour
dire oui ou non.
Pour dire 27 oui ou non, enfin pour... dire qu'on ne veut pas que nos données soient partagées pour nourrir l'IA. Voilà, petit message de rappel.
À tester, si vous voulez, meta.ai. Vous nous direz ce que vous en pensez. Dans l'actu aussi, il y a cette rumeur qui est quand même assez importante du côté de chez Apple. Apple qui pourrait bouleverser en fait le rythme de sortie de ses produits.
Ouais.
C'est intéressant parce que Apple est une boîte plutôt stable. Hein, Melinda, tu les connais depuis des années. Septembre, voilà. On sait que le deuxième ou troisième mardi de septembre, tu vas avoir la keynote. 10 jours après, les iPhones sortent. Il y a Noël qui arrive. Voilà, on déroule en quelque sorte. Et là, il y a cette rumeur qui nous explique que finalement, Apple pourrait revoir son calendrier de sortie avec non pas un moment dans l'année de sortie de smartphones, mais deux moments.
Ouais, il y aurait septembre et mars en fait.
Un peu comme Samsung finalement.
Ouais, alors c'est...
Oui, c'est ça. Ils sont sur janvier, juillet.
Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi parce que la gamme Apple est en train de s'étoffer aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on attend en tout cas qu'il y ait une version slim. Enfin, iPhone 17, tu auras toute la gamme et tu auras un modèle slim.
Qui arriverait là cette année. Hein,
non, toi, tu n'y crois pas ?
Non.
Tu crois que slim, c'est vrai ? Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même.
Ouais, moi, je pense plutôt à un iPhone Pro qui va être affiné.
Ah ouais ?
Mais je ne pense pas comme Samsung. Mais après, c'est mon avis.
Ok.
Vas-y,
cette rumeur aussi, c'est chez Samsung.
Mais chez Samsung, on sait que ça existe. Voilà. Enfin, moi, je l'ai vu.
Le Samsung Galaxy Edge.
Je l'ai vu, le Edge. Et on sait qu'il arrive.
Ouais. Bah là, moi, vu la quantité de rumeurs qu'il y a eu quand même sur ce
site. Ah non, c'est Paris, les amis.
Ouais. Moi, je pense que oui. Il y a même eu cette idée. Il y a des mecs qui ont fait les calculs. Enfin, il y avait des infos internes de Apple, ces Information qui sortaient ça. En général, ils ne sont pas trop mal informés, d'où le nom de. du magazine d'ailleurs, enfin du site, qui disait que la version slim générerait des problèmes d'autonomie sur les nouveaux iPhones et tout. Enfin bon, bref. Donc, mais en tout cas, l'idée ce serait ça. Ce serait comme la gamme est en train de s'étendre, parce que maintenant t'as les iPhones classiques, les iPhones Pro, Pro Max, le slim, peut-être un modèle pliable éventuellement à un moment aussi. Si tu cumules tout ça, bah en fait, et puis les SE aussi, il faut qu'il y ait deux moments où tu peux pas sortir, tu peux pas tout annoncer le même jour. Et donc en gros, tu aurais, alors si tu te projettes un petit peu là, ce serait septembre 2025, tu aurais les iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Slim, iPhone 17, mars 2026, iPhone 17e, septembre 2026, iPhone pliant éventuellement 18 Pro Max, 18 Pro, 18 Slim, et mars 2027, iPhone 18 et 18e. Voilà, en gros, ce serait ça le cycle qu'on peut imaginer, en tout cas à partir de ce nouveau calendrier d'Apple. Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses, Mélinda ? Alors, tu connais un peu la stratégie d'Apple.
Ouais.
Moi, ce qui me choque, c'est que Apple concentre tout sur la fin de l'année, habituellement, parce qu'on sait qu'à Noël, on explose les ventes. Hein. Et c'est pour ça que les iPhones sortent 2-3 mois avant, pour que les gens puissent commencer à en entendre parler et s'offrir le nouvel iPhone. Là, ça perturberait un petit peu le système.
Alors, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'ils séparent la gamme numérotée de la gamme Pro. Parce qu'on est sur des appareils qui se ressemblent, et encore plus cette année, la gamme 16 et la gamme 16 Pro, il n'y a quand même pas des grosses différences comme on a eu à une époque.
Et à mon avis, entre le 16 et le 17, on ne va pas être aussi scotché hein,
en termes de différence. Non mais tu vois, le package, quand il arrivera, est censé être le même, on a le même bouton photo, il y a beaucoup plus de similitudes cette année que l'année dernière. Donc, il y a besoin de cette diversité. Même si on sait que le 16 Pro Max se vend très bien, celui qui se vend bien, après, c'est le numéroté. Est-ce qu'ils vont...
Quand tu dis numéroté, c'est quoi ?
Les entrées, le 15, 16, 17.
Ah, ok.
Juste, et plus, et version plus.
Donc et bon, là, maintenant, il y a le 16e aussi.
Oui, je vais y revenir. Le 16e, en fait, remplace l'ancienne gamme SE, qui est une entrée de gamme. Et ça, pour moi, ça restera au printemps. Parce que, depuis des années, même s'ils font des choses bizarres, il y a quand même une certaine logique dans les présentations Apple. La rentrée, les iPhones, les montres, parce que ça va de pair. Parfois, vous avez les écouteurs, parce que les écouteurs, ça va avec un peu tout le monde, donc on peut vous les mettre un coup au printemps, un coup à la rentrée. Parce qu'on prépare Noël, comme tu l'as dit. Mmh. Noël, tout le monde n'a pas le même budget. Il y a ceux qui peuvent se permettre d'avoir le 16 Pro Max, mais qui veulent aussi le dernier, mais qui n'ont pas le budget. Donc, il faut leur laisser l'entrée. C'est pour ça que j'ai du mal à croire qu'à un moment, on les sépare. En revanche, le 16e, qui est une version vraiment allégée, il n'a qu'un capteur, il lui manque plein de choses.
Pour moi,
c'est un appareil, donc ce que j'appelle chez Apple la gamme famille. La gamme famille, c'est l'iPad numéroté, donc celui qui est aussi proposé aux écoles. C'est MacBook Air à une époque. On va pas dire low cost pour Apple parce que.
Ouais. Mais c'est vraiment. Non, mais c'est les produits les moins chers dans chaque gamme.
Les produits les moins chers étaient historiquement au mois de mars, au printemps, parce que c'est les achats auxquels vous allez réfléchir à faire. En projection de la rentrée, avec l'été, les vacances. Donc, je ne crois pas à une séparation. En revanche, pour moi, le pliant sera le produit un peu révolutionnaire des 20 ans. Donc, je l'attends plus pour 2027.
Ouais, moi, je suis d'accord. Fait un moment que je dis ça, moi.
Et parenthèse, le
pliant arrivera
pour
en
moi, le Edge, où j'aurais du mal à aller voir tout de suite aller sur un Edge, c'est qu'il n'y a pas de marché et que je ne vois toujours pas quelle est la cible d'un Edge quand on tend depuis des années à essayer d'affiner son appareil, d'affiner son iPhone, de le rendre plus léger avec le titane. Je ne vois pas. En fait, je n'ai toujours pas. Je veux que quelqu'un m'explique l'intérêt. Samsung y va.
L'intérêt, moi, je le vois, excuse-moi, hein, c'est en termes de design. Apple veut revenir un petit peu dans la course au design en faisant un smartphone, un iPhone plutôt fin, tu vois.
Mais tu fais tellement de compromis, la batterie, les capteurs photo.
Ben ça, ouais.
Et c'est là où, pour moi, Google, avec sa force logicielle, peut se le permettre. Samsung, parce qu'ils aiment bien innover et que ça leur permet aussi de se démarquer.
Mais n'oublie pas que, tu vois, ils commencent à développer leur propre chipset réseau qui consomme beaucoup moins que les Qualcomm.
Oui, mais...
Peut-être qu'ils arriveront, parce qu'ils sont très forts aussi en optimisation de consommation, peut-être qu'ils arriveront à avoir peut-être un iPhone un peu plus grand avec une batterie plus fine qui arriverait, tu vois, à tenir une journée, finalement.
Les batteries en silice carbone deviennent plus fines, mais souvenons-nous que Apple, pendant très longtemps, ça a été un gros problème, l'autonomie chez eux.
Non, c'est clair.
J'attends de voir qu'on me dise, j'attends de voir que Samsung, le fameux Samsung Edge, qui est la cible et à quel prix.
Et avec un écran bord à bord, pour l'iPhone 18, ça, visiblement, ils joueraient aussi là-dessus. Et c'est marrant, il y a eu une pub Google qui est sortie cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, une pub Google US.
Oui, où ils se moquent un petit peu.
Ouais,
ils
aiment bien se moquer.
Ouais, mais là, c'est rigolo. C'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre, bien sûr. On est dans les smartphones, on y reste.
Okay.
Avec un petit Motorola que tu vas nous présenter.
Je vous présente l'iPhone pliant.
En toute simplicité.
En toute simplicité, il est là. Voilà, je l'ai sorti des labos. Non, je rigole de ça parce que je vais vous expliquer ma pensée. Sur le marché des pliants, on connaît le Galaxy Z Flip, qui est celui qui marche le mieux. Il y a eu des tentatives chez Oppo, chez plein de gens. Ça prend difficilement. Pour moi, le seul qui est un vrai concurrent avec des vrais arguments un peu différents, c'est le Motorola Razr. Razr, on le connaît depuis des dizaines d'années et voire plus parce que c'était un peu les pionniers du téléphone à clapet, comme on dit chez les boomers.
Ouais. Oui, c'est vrai, ça se dit plus.
Ceux qui étaient sur Skype.
Donne-moi ton téléphone à clapet.
Donne-moi.
Mais ça aussi, c'était révolutionnaire à l'époque.
Est-ce que tu fais du Skype sur ton téléphone à clapet? Donc voilà, changement d'époque. Motorola.
Je joue à Snake, madame.
C'est vrai. Eh bien, ils sont de retour de temps en temps. Enfin, blague à part, Motorola a revu sa copie depuis des années, l'a modernisée. On est sur quelque chose qui, en effet, ressemble beaucoup au Galaxy Flip, mais je trouve a énormément d'arguments.
Fais voir un peu, tiens, madame.
Hop là. Moi, j'aime bien ce format-là. Il faut rappeler un Galaxy Flip pour ceux qui savent pas.
C'est ça qui se plie
comme un miroir, comme un petit miroir.
Écran intégral de 4 pouces.
Vous avez un écran.
Donc déjà, c'est beaucoup plus grand que celui du Galaxy parce que les capteurs sont enchâssés dedans. Et il faut que je te le déverrouille pour que tu vois tout.
Non, mais c'était juste pour montrer le.
Non,
il est intégral, on peut servir de tout l'écran extérieur. Et ça, franchement, c'est appréciable de ne pas avoir cette grosse bande noire ou bande un peu bizarre qu'il y a chez Samsung. On peut avoir accès à toutes ces applications sur l'extérieur sans avoir à déplier son téléphone. Mine de rien, c'est bien. Ouais. Vous avez Gemini et toutes les fonctions IA, mais ça, c'est pour ceux que ça intéresse.
Elle est en émission, là. Je ne peux pas vous la passer.
L'écran, il est
c'est
super...
C'est chronopost. Bon, mais tant pis. Non, mais
une fois qu'ils appelaient.
Faites comme d'habitude.
Une fois qu'ils appelaient. On vous adore, chronopost.
Non, mais livrez-moi mes colis chronopost quand c'est même. Ça. Je suis gentille. Ils ont amélioré la charnière qui est en titane. Surtout, messieurs, vous qui l'avez en main, il y a un argument chez Motorola depuis quelques années parce qu'il faut se démarquer, c'est le design. Et donc le design, là, c'est un modèle en Alcantara.
Oui, c'est vrai,
excusez-moi.
Ça fait un peu peau de chamois.
Ah, voilà, exactement, c'est l'Alcantara.
Alcantara. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est ce truc-là, là.
Oui.
Mais c'est, bon, je ne connaissais pas, moi.
C'est bien
quoi,
parce
Alcantara.
Que tu peux nettoyer tes meubles.
Cuir velours. Oh non.
C'est clair. Oui, ça fait un peu.
Ça fait, tu sais,
petite lingette. Voilà.
Il est proposé en fibre de bois, il est proposé en bleu un peu vinyle, fuché un peu vinyle, nylon, truc comme ça. Enfin, ils aiment bien jouer avec les matières et avec
ils ont raison.
Très cool.
Et ils ont raison parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai élément, un marqueur différenciant, en plus de la couleur. Il a des couleurs très, très sympas. Écran OLED, je vous l'ai dit, 165 Hz à l'extérieur, donc il est quand même hyper réactif. 7 pouces à l'intérieur. À la rigueur, quand on le déplie, ça fait un peu très élancé, un peu comme avec Sony, avec ses Xperia.
Ah, j'aime bien, moi.
Faut aimer, c'est très bien quand on regarde des films, moi, je trouve, mais c'est pas, tout le monde n'aime pas. Les capteurs photos sont très bien.
C'est un écran très long, quoi. C'est du 16 dixième, je ne sais pas. Enfin, mais bon, voilà, regardez, ça fait pour regarder une série, bon.
Ouais.
Pour les plans panoramiques, c'est bien.
Voilà, pour les panoramiques, c'est vachement bien.
Voilà.
Mais capteurs photos sont très bien. On est à 50 mégapixels, mais en plus, ils sont bien gérés, avec beaucoup de fonctions et d'outils à l'IA pour retoucher ces photos, donc elles sont encore meilleures. Passons. Il est certifié IP48. Donc c'est bien, ça ne veut pas dire que vous allez lâcher 2 heures dans l'eau parce qu'il n'aimera pas, mais au moins il résiste un peu.
Ah, IP48, c'est quoi? C'est des éclaboussures?
C'est éclaboussures,
si
sueur et tout.
Tu dis
tu
bye
récupères
bye,
tout de suite. Tu récupères
tout
de suite.
Ah ouais, tu peux
pas se baigner avec.
Faut pas
ça.
Se baigner avec. Mais mine de rien...
Je tenterai pas.
Si on ne le met pas dans le riz,
si t'es dehors,
ça ne marche pas.
Non mais si tu passes un coup de fil sous l'eau, il ne va pas mourir de 3 gouttes, c'est ça que je veux dire.
Ouais.
Snapdragon 8 Elite. Donc on est quand même sur quelque chose de puissant.
Il faut vraiment être...
T'es dehors, il pleut. Tu dois répondre vite. Ça t'est déjà arrivé. Ça est déjà arrivé à tout le monde. Non, mais mine de rien, on rigole. C'est un très bon téléphone. L'autonomie a été améliorée. Il y a en plus une gestion à l'IA qu'il faut activer. Ne faites pas comme moi au début. Parce que,
pour l'autonomie?
Ouais, parce que comme je le testais un peu vite, je trouvais que la batterie baissait alors qu'elle était censée être de meilleure qualité.
Ah, okay.
Mais bon, au début, il faut.
Et le prix, c'est quoi?
Et alors, c'est là où on va arriver.
La douloureuse.
Sur les trucs.
Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Alors, la douloureuse, elle est un peu moins chère que souvent les flips, mais on est quand même à 1 299 €, mais en 512 gigas de stockage. Je tiens quand même à le signaler parce que c'est pas souvent et c'est 2 fois plus que la concurrence pour à peu près le même prix. Pour moi, c'est pas ça le problème.
Ah.
Qui est un petit problème, mais problème quand
même. T'as vu comme elle balance le truc?
Ouais.
Elle dit ouais, c'est super, mais bon, c'est pas
non,
ça le problème.
Non, pour moi, je l'ai dit et je leur ai dit à Motorola, on est sur 3 ans de mise à jour. Alors, il est déjà sous Android 15, c'est
3
bien.
3 ans de mise à jour.
Voilà.
C'est tout
et c'est tout.
Waouh, non, non.
Mise à jour OS et 3 derrière. Okay, et ça, je trouve que c'est un petit peu léger. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ils
donc,
vont commencer.
Donc, il y a 3 ans de mise à jour.
Compte Android 15 qui
et
est.
Et après, t'as les mises à jour sécurité, c'est
et
ça?
Et après, t'as les sécurité, c'est 3 ans ou 4 ans.
Aujourd'hui, on est à 6 ans ou 7 ans de mise à jour.
Pas chez tout le monde. Oui, mais... chez Samsung, on y est. Donc, mine de rien, quand vous prenez votre Flip,
les pixels,
qui est un petit peu mieux fini, certains vous diront, au niveau du design, Pixel, Apple, oui, on est sur 6 ou 7 ans. Je trouve que quand on paye un téléphone 1300 euros,
ah ouais, quand
ça
même.
Pourrait être un peu mieux. Là, c'est
pourquoi
ce que
3 ans
je...
Le processeur n'est pas assez puissant, il y a pas assez
non,
de mémoire.
Non, si, c'est un Snapdragon 8.
C'est,
le
top du top,
c'est juste que, vous savez que les licences de mise à jour, elles se payent. C'est pas, ouais, bon, c'est pas qu'une décision, c'est-à-dire qu'on paye Android.
C'est pas mon problème, en fait, j'ai envie de te dire.
Non, mais c'est leur.
Ouais. Donc, ouais, d'accord, mais bon.
Donc,
3 ans de mise à jour.
C'est vrai qu'à 1200,
c'est chaud, hein.
1200 euros.
C'est le seul truc que moi je trouve un peu dommage. On sait qu'aujourd'hui, on doit tendre vers 5 ans au minimum de mise à jour. Il y a une demande, il y a une législation qui va s'organiser. Je pense qu'ils seront obligés de le faire et qu'ils les proposeront. Parce que mine de rien, ça reste que du logiciel.
Ouais, mais bon.
Donc c'est le problème. Et je voulais quand même dire, là où je rigolais sur l'iPhone pliant, c'est des malins. Ils savent qu'Apple n'a toujours pas dégainé le sien. Ils misent un peu sur leur design, donc en faire un objet esthétique. Après, libre à chacun de préférer le Flip ou celui-là.
Okay.
Il y a une appli pour transférer ses données, toutes ses images, ses photos, ultra simplifiées.
Entre
pour les possesseurs de l'iPhone, vraiment, ça prend rien du tout. Et ça vous met vraiment votre appareil à l'identique.
Okay.
J'ai trouvé ça très malin.
Ouais, c'est pas mal.
Et, parenthèse numéro 2, il existe une version allégée. Le Razer 60 tout court, celui-là c'est le Ultra.
Version light.
Une version light qui est à 899 euros, 512 gigas de stockage aussi, qui perd un petit peu, qui est avec un autre processeur un petit peu moins puissant, un appareil photo très bien un petit peu moins puissant, mais qui est une version allégée si vous voulez vraiment.
Avec le même écran, pliant.
Il fait 3,6 au lieu de 4, c'est toujours plus grand que le Samsung.
Mais à la place de la peau de chamois, t'as du scotch brite. Après voilà, tu choisis
l'option. Tu as raison, il n'y a pas de
tu t'achètes les deux, tu peux faire la vaisselle.
Alors, mine de rien, il n'existe pas en Alcantara.
Ça te fout 2000 balles, mais c'est pas grave.
Le 60 n'est pas en Alcantara, il est en acétate, pardon, pas acétone, qui est la matière des lunettes souvent un peu Gucci et compagnie, et en version nylon.
Pas mal, assez classe.
Bon, bah écoute.
Classe quand même.
C'est là-dessus qu'on va dire au revoir, les amis.
Mais oui.
Enfin, au revoir. Pas tout à fait, parce que vous le savez, il y a le petit module bonus de quoi je me mêle qui vous attend, si vous êtes avec nous en podcast audio, avec toujours Mélinda et Anthony. Mais si vous êtes avec nous à la radio, à la télé ou sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous les deux et vous restez là, car dans un instant, deuxième partie de ce De quoi je me mêle, ce sera nostalgique avec Christophe Joly. On va déballer le Game Boy, les amis. L'histoire du Game Boy et de Nintendo. A tout de suite et merci d'être là.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.